Alors, on va reprendre pour une deuxième partie et je vais tenter une réduction. Mais généralement, c'est toujours un bon exercice parce que forcément, il y a beaucoup de choses en trop. Alors donc moi, mon projet, j'ai proposé pour m'inscrire finalement au sein du réseau usage des patrimoines numérisés. J'ai un peu, on peut dire, fait valoir mon expérience à la fois patrimoniale, scientifique et pédagogique de l'archive, c'est-à-dire que j'ai développé à la fois des pratiques archivistiques, scientifiques et pédagogiques autour des archives, et j'ai proposé d'aller vers des principes communs d'édition, donc des correspondances dans un environnement numérique. Et c'est vrai que je vais de l'édition à l'éditorialisation, c'est ma démarche. C'est vrai que là, j'ai commencé en mettant, comme ça permet de tout de suite de donner une idée de ma démarche, c'est-à-dire que de passer à la fois du manuscrit, donc en travaillant à partir de la correspondance du mathématicien, du géomètre Gaspard Monge, et d'aller de la forme du manuscrit, du travail que j'ai dû effectuer au sein de l'école polytechnique, et notamment donc dès les années 2000 avec l'idée d'un catalogage électronique et au sein de Notis. Donc ça a été la première fois où je me suis dit, il y a eu cette idée finalement en jouant avec des mots-clés, des parcours, des thèmes, d'essayer de mettre en réseau finalement des documents. Et puis passer par l'édition, vous voyez, plus érudite, traditionnelle, avec, si on le verra, mais c'est-à-dire que le corps de la lettre, par exemple, ça c'est toute une lettre très brève, qui fait à peu près donc les 5 lignes là et les 5 lignes ici, et là tout l'apparat critique qui est développé à partir de cette lettre. Et finalement, tout l'enjeu aussi, c'est de savoir comment ranger maintenant et à la fois les données qui ont été déterminées, identifiées au sein de la notice électronique de l'archive, tous les éléments et le matériau de la paracritique, et d'essayer donc de l'organiser, le ranger, j'ai perdu ma souris, au sein de la plateforme IMAN, donc en collaboration avec l'ITEM. Voilà. Donc, mon objet de la recherche UDPN, donc établir des principes communs d'édition des correspondances dans un environnement numérique. Alors, là, de l'édition à l'éditorialisation, parce que j'avais une volonté justement d'envisager comment est-ce qu'étaient exploités des questionnements et du savoir-faire déjà acquis en matière d'édition critique de sources, et en interrogeant les modifications finalement des pratiques archivistiques et éditoriales par l'environnement numérique. Aussi en considérant donc comment la problématique se complexifie, en permettant à la fois une multiplicité de descriptions et de documentations et une redéfinition des questionnements, et en revêtant une perspective interdisciplinaire, technique, collaborative et dynamique. Et c'est vrai que dans la première image que je vous ai montrée là, du document Word, où on est tout seul à élaborer et à établir son édition, c'est vrai que dans la dynamique dans l'environnement numérique, il y a vraiment cette idée à la fois donc technique, collaborative et dynamique. Même s'il y a quand même une perspective technique aussi, avec forcément une technologie moindre, mais une perspective technique aussi quand on organise un apparat critique autour, donc sur la représentation spatiale d'une page blanche et la distinction entre footnotes et corps de texte. Très bien. Donc, ce projet se réalise, donc il y a trois types de réalisation, c'est-à-dire qu'il y a la volonté donc de rédiger un guide de bonnes pratiques, en tout cas dans la gestion de projets d'édition numérique de correspondance, il y a des recommandations et informations, et ça c'est un travail donc que j'effectue avec Richard Walter donc de l'ITEM, et en utilisant tout le matériau qui est élaboré au sein de séminaires ou de rencontres du groupe de travail correspondance du consortium Cahiers. Il y a l'idée donc d'établir un prototype éditorial à partir de l'adaptation de l'édition du corpus, donc d'un corpus spécifique sur lequel j'ai travaillé, qui a été l'objet de ma thèse, donc 95-99. Vous voyez, c'est une petite période, la correspondance du géomètre. Et à la fois, c'est une étape de conversion ou d'adaptation numérique, donc des éditions de plusieurs corpus distincts, puisque pour pouvoir éditer ce corpus de correspondance, il a fallu que je mène des études différentes, et pour pouvoir mener ces études, il a fallu que j'édite d'autres corpus. Voilà. Donc l'idée, c'est de rassembler dans cette plateforme tout ce matériau, donc la publication des études, et aussi l'idée de préparation, de l'extension du corpus à la correspondance générale. Ok. Et donc un troisième point de la réalisation, c'est de mettre en correspondance finalement les modalités éditoriales distinctement définies au cours de ma thèse pour mettre en place l'édition, établir l'édition de la correspondance de Monge, avec les ressources et contraintes techniques d'Omeka. Et je vais rajouter, il faudrait que je rajoute un troisième fil, c'est aussi que la plateforme IMAN, donc qui utilise Omeka, c'est aussi une plateforme qui a été à l'origine qui est pour permettre la réalisation d'études génétiques. Donc là aussi on est en pleine interdisciplinarité, puisque finalement moi j'arrive avec un corpus d'histoire des sciences que j'essaie d'élargir vers des considérations historiques un peu plus larges, et en utilisant finalement une plateforme qui a été conçue, c'est-à-dire les fonctionnalités d'Omeka qui ont été utilisées pour des études génétiques. Voilà. Et donc un projet qui est mené en collaboration donc avec le groupe de travail correspondance du consortium Cahier et le laboratoire interdisciplinaire de l'école polytechnique, puisque la majorité des archives donc Monge, du fonds Monge, se trouve à l'école polytechnique, et c'est comme ça que j'ai eu la possibilité d'en effectuer le classement et la cotation. Très bien. Donc une édition numérique, pourquoi ? La conservation, la diffusion, l'exploitation et la mise en réseau d'un corpus. Mais on voit que finalement ces objectifs sont aussi des objectifs qu'on peut retrouver finalement aussi dans l'idée de fonds audiovisuels dans un environnement numérique. En développant les axes de son exploitation, sujet de l'histoire des sciences au champ plus entendu des études historiques, avec la volonté de constitution de corpus modulables et flexibles en fonction des questionnements scientifiques, de besoins pédagogiques ou de préoccupations culturelles. Et puis aussi, l'idée est qu'au-delà de l'édition, de la diffusion et de la mise à disposition du corpus, il y a l'idée d'informatiser l'enquête scientifique. Donc, alors, je vais de l'édition à l'éditorialisation, mais vraiment, il y a un article vraiment intéressant, donc éditorialisation et littérature, j'utilise, là, alors c'est sûr qu'on peut le... Elle est sûrement discutable, mais la sorte de définition la plus restreinte de l'éditorialisation par Vitaly Rossati, on peut en discuter, c'est quand même un groupe qui a travaillé sur 8 ans sur la notion d'éditorialisation, et c'est quand même un outil très utile. Ok. Donc, on va passer ça. Donc, de passer de l'édition à l'éditorialisation. Alors, oui, mais j'ai fait style que tout le monde doit connaître la définition. Voilà, on peut définir l'éditorialisation comme un ensemble d'appareils techniques, le réseau, les serveurs, les plateformes, les CMS, les algorithmes des moteurs de recherche, de structures, hypertexte, multimédia, métadonnées, de pratiques, annotations, commentaires, recommandations via les réseaux sociaux, qui permet de produire et d'organiser un contenu sur le web. Donc même si cette définition est la plus restreinte, on voit bien qu'elle pose quand même... Ça donne un programme assez vaste sur lequel je préfère me tenir. Déjà, ça pose déjà pas mal de problèmes. Ok. Donc passer de l'édition à l'éditorialisation, il y a l'idée, et c'est pour ça que dans tous les éditeurs de correspondance ont été absolument séduits et fascinés par les possibilités que donnait l'édition. On parlait d'abord d'édition électronique, mais en tout cas d'édition de corpus de correspondance dans un environnement numérique. Parce que vraiment, passer de l'édition à l'éditorialisation, c'est de passer en fait, du fermé à l'ouvert, de l'individu au collectif et du fini à l'indéfini. Et alors, je pense que je l'ai enlevé, mais c'est vrai que quand on lit les éditeurs, une des premières tâches de l'éditeur de correspondance, c'est de créer un catalogue des lettres et d'avoir toujours à l'idée que ce catalogue, de toute façon, ne sera jamais fini ni achevé. Hein. Donc vraiment, le corpus de correspondance, la question qu'il pose, c'est que c'est un corpus qui n'est jamais achevé, hein, et qu'il ne faut jamais même prendre comme principe, hein, qu'il puisse être achevé. Ok, défini. Donc, et cette idée, voilà, une instance, donc toujours avec Vitali Rossetti, hein, c'est une instance, l'éditorialisation, hein, c'est une instance de mise en forme et de structuration d'un contenu, hein, qui ne se limite pas à un contexte fermé et bien délimité, ni à un groupe d'acteurs prédéfinis, mais qui implique une ouverture dans l'espace et dans le temps. Hein. Et cette ouverture est une des principales différences entre l'édition et l'éditorialisation, et c'est justement ces caractéristiques et ces spécificités de l'éditorialisation qui rend l'environnement numérique adéquat à l'édition des correspondances. Donc, on passe vraiment de l'éditeur isolé à l'équipe d'un projet d'édition numérique. Alors, c'est vrai que moi, je le sens parce que je suis arrivée avec mon édition soi-disant finie et achevée d'un corpus avec la paracritique, voilà. Et finalement, on se rend compte que quand on rentre dans une équipe, déjà, on est deux avec avec Richard Walter, qui lui dit « c'est moi l'éditeur scientifique », on ne sait plus d'ailleurs, même dans un projet numérique, on ne sait plus qui est l'éditeur, hein, et qu'est-ce que vraiment l'édition scientifique. Et quand il parle de l'éditeur du projet, je me demande chaque fois s'il parle de lui ou de moi, finalement. Voilà. Donc, mais l'éditeur scientifique, en tout cas le groupe, hein, c'est celui qui est d'abord chargé de l'établissement du texte. Hein. Donc, avec étudié à partir du manuscrit ou d'une édition, en tout cas d'un texte authentique et original, hein, avec tout ce qui est la question des choix, hein, de transcription, c'est-à-dire la résolution, la restitution, hein, des abréviations, la séparation des mots, voilà, les âges de diacritiques, des majuscules, la ponctuation, l'idée de la structuration textuelle, alinéa, paragraphe, chapitre, hein, correction du texte, ajout et variante. Bref, toutes ces questions d'établissement du texte, ben ça c'est la difficulté d'établir des principes communs, et on le voit très bien quand on fait des séances de groupe de travail avec les différents éditeurs de correspondance, où chacun a, il y en a qui ont explique pourquoi il faut vraiment une fidélité au manuscrit. Et après, il y a la question de l'éditeur scientifique, c'est celui aussi qui ajoute le contenu, hein, c'est-à-dire qui détermine finalement toute la question de la documentation, hein, donc qui entoure les contenus qui entourent le texte source, que ce soit l'introduction, la paracritique, les liens hypertextuels, hein, l'index, glossaire, chronologie, etc. Et chose qui, même au sein même de l'édition, avant d'être dans un environnement numérique, hein, il fallait que l'édition de correspondance déjà dispose de tous ces différents éléments. Ok. Donc l'éditeur scientifique, hein, c'est celui qui établit les principes, et les principes constituent des conventions établies pour mettre en correspondance finalement, hein, la pièce physique avec la forme numérique de l'archive. Et ces principes aussi, ils sont là pour transcrire et pour donner en fait trace, hein, de la procédure de toute l'analyse matérielle et intellectuelle du matériau, analyse matérielle et intellectuelle nécessaire pour l'inscrire dans un réseau de sources et de questionnement. Et pour déterminer aussi une stratégie d'annotation et un traitement technique à lui appliquer. Donc cette adaptation numérique conduit réellement à considérer les rapports entre édition et recherche, hein, tout en se confrontant à la question de la médiation et des usages à la fois des matériaux, hein, et des résultats de la recherche scientifique et des matériaux, on pourrait rajouter des résultats et des archives de la recherche scientifique. Donc, le protocole d'adaptation dans un environnement numérique, hein, on se rend compte que finalement, ça doit s'appliquer tant aux pratiques éditoriales qu'archivistiques. Je parlais tout à l'heure donc, de l'artiste qui se confronte aux problématiques archivistiques. Et c'est vrai que maintenant, dans l'environnement numérique, le chercheur fait aussi un travail, hein, d'archiviste. Alors qu'avant, l'archiviste, moi, quand j'ai effectué mon travail à l'École Polytechnique, on devait se mettre au service du scientifique. Et le scientifique ne se posait pas de la question de l'identification plus que ça de la pièce. Tout était, le matériau était préparé, hein, par l'archiviste. Voilà. Et donc, ce protocole, pourquoi est-ce qu'il doit s'adapter tant aux pratiques éditoriales qu'archivistiques? Parce qu'on doit considérer, comme on l'a dit aussi en introduction, c'est-à-dire au sein, dans un contexte, dans un environnement numérique, la question de la coordination des usages patrimoniaux, scientifiques, pédagogiques et culturels. Donc ma méthodologie, donc je développe une perspective comparative et historique, on ne se refait pas, je suis quand même historienne, donc dans mes méthodes, c'est comme celle-là. Et donc j'envisage les principes de l'édition érudite et critique pré-numérique, et donc pour faire gros, qui sont établis toujours au sein de la tension entre fidélité et lisibilité. C'est-à-dire qu'on doit donner à la fois un texte qui doit être fidèle à l'original, le rapport à l'authenticité, et il faut que ça puisse être lisible. Et donc c'est dans cette tension-là que les principes vont être établis, à savoir si on va vouloir privilégier plus la lisibilité sur la fidélité ou plus la fidélité sur la lisibilité en tenant compte des spécificités du matériau. Voilà. Et donc c'est un petit guide qui a été effectué donc, vous voyez, en 1986 qui est vraiment intéressant et qui est pour moi une base de travail vraiment importante de discussion. Et surtout ce qui est intéressant, c'est comment on voit que des principes finalement qui étaient établis et déterminés pour des éditions papier de correspondance peuvent être absolument réutilisés et s'inscrire aussi dans les éditions, l'édition dans un environnement numérique. Okay. J'envisage aussi, donc là dans une perspective historique, le principe déjà un peu vieilli et réformé de la conception d'un outil ad hoc. C'est-à-dire que dans cette idée, dans le début des années 2000, donc quand j'étais dans cet engouement des éditeurs de correspondance, il y avait cette idée que oui, il fallait pour créer une édition numérique, il fallait d'abord de l'argent. Et avec cet argent-là, on pouvait faire appel à un prestataire qui pouvait créer un outil absolument qui correspondait totalement à la spécificité du matériau, à la spécificité des préoccupations scientifiques et patrimoniales. Et quand j'ai d'abord lancé mon idée pour aller vers des principes communs d'édition de correspondance, les éditeurs de correspondance m'ont tout de suite répondu que ce n'était pas possible parce que chaque fonds était bien spécifique, avec des caractéristiques bien spécifiques. Ok. Et finalement, dans cette... alors là aussi, une publication vraiment utile, qui est la publication des éditions de textes, informations et recommandations, qui a été aussi élaborée au sein du consortium Cahiers, mais là, pas par le groupe de correspondance, mais le groupe questions juridiques. Et c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Et donc, en faisant... et qui reprend et qui donne quelques éléments d'explication, enfin, moi, qui m'ont donné des explications pour comprendre pourquoi est-ce que maintenant, on n'est plus du tout dans cette idéologie, quasiment, on pourrait dire, de la conception d'un outil ad hoc. Alors, d'abord, parce qu'il y a eu une extension des objectifs. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour la conservation et la mise à disposition, parce que d'abord... les éditions électroniques n'étaient conçues que pour répondre à des objectifs de conservation et de mise à disposition, mais il y a aussi toute la question de l'exploitation, de la description, de l'analyse des textes, en tout cas de l'informatisation de l'enquête. Voilà. Et donc un contexte aussi technique, forcément avec le renouvellement de la publication et de la production scientifique et de la question aussi, c'est-à-dire que c'est d'accord que les données soient accessibles, mais qu'elles le restent accessibles, et ça c'est la question de la pérennité. En 2010, donc aussi le manifeste des Digital Humanities, qui était vraiment un appel pour un accès libre aux données et métadonnées, donc avec les principes et qui mettait vraiment en valeur les principes d'interopérabilité et de documentation du document, afin de favoriser la diffusion, la circulation et l'enrichissement des méthodes, du code, des formats et des résultats de la recherche. Et puis quelque chose d'un peu plus politique en 2013 avec le Global Research Council, qui est avec un plan d'action sur l'open access, donc consensus sur l'importance de donner libre accès aux publications scientifiques, et avec cette idée aussi de libre accès à des outils de publication scientifique. Et pour le H2020, c'est-à-dire que la Commission européenne, c'est vrai qu'un des objectifs principaux, c'est la mise en libre accès des données de la recherche. Ok. Et... super. Pardon, c'est comme il était un peu long, je l'ai coupé en deux, et je dois avoir le deuxième qui est là. Voilà. Donc, ces nouveaux Voilà, c'est bon. Super. Ok. Donc, dans cette méthodologie, donc avec cette volonté un peu historique et comparative, c'est-à-dire que c'est considéré hein, comment, avec l'édition numérique de correspondance, donc il y a la question du développement, de la diversification des usages et des pratiques, de la mise en réseau des corpus de correspondance, du croisement des informations, de la définition. Hein, ça aussi, ça a été un des premiers traitements informatiques. Des corpus de correspondance, c'était la possibilité de définir les réseaux sociaux, les réseaux de circulation et utiliser hein, tous les outils de géolocalisation. Ça a été vraiment les premiers traitements informatiques qui ont été faits sur les corpus de correspondance. Et puis, aussi, comment la question de la pérennité du matériau numérisé et de l'exploration scientifique informatisée hein, nous ont amené à revenir sur ce principe de la conception d'un outil ad hoc. Et donc, du coup, l'éditeur de correspondance, l'éditeur de texte, se rend compte qu'avec l'édition numérique, bien, finalement, il y a de nouveaux principes qui arrivent, hein, ceux de visualisation et de documentation, ceux de granularité hein, et d'interopérabilité hein, qui déterminent le principe d'interopérabilité hein, qui détermine à son tour hein, ceux de moissonnabilité et d'exportabilité. Donc ça, ce sont des principes, vous voyez qu'on est bien, enfin, il y a toujours cette question de fidélité et de lisibilité, mais il y a d'autres principes à prendre en compte. Ces principes sont liés aux conditions hein, de développement et de pérennité, hein, qui, dans l'environnement numérique, hein, qui correspondent, on a du mal à s'en souvenir, mais quand même au temps long de la recherche scientifique. Ok. Et donc, il y a ces principes aussi liés à l'environnement numérique hein, qui sont l'authenticité, la crédibilité, visibilité, accessibilité et surtout le plus intéressant aussi, je crois, le plus fécond pour des éditeurs de texte, c'est l'idée d'intertextualité. Ok. Donc, ces nouveaux principes, ils sont encore coordonnés à de nouveaux objets, c'est-à-dire les données, hein, et en posant la question de la conservation, de leur structuration, de leur exploitation, hein, et puis aussi de la puissance et de leurs enjeux hein, dans des pratiques éditoriales traditionnelles telles que l'indexation. Et c'est vrai que l'indexation qui est la tâche vraiment importante et utile de l'éditeur de texte dans un environnement numérique, ça prend une autre dimension. Ah oui, voilà, bon, ça c'est assez mal placé, mais c'était donc ça pris de ce petit guide d'éditeur de correspondance. Vous voyez, on s'engagera dans une édition de correspondance surtout générale qu'après avoir établi un répertoire qui devra toujours être considéré comme incomplet et susceptible d'amélioration. Hein. Donc vous voyez, on est bien dans l'indéfini, voilà. Donc, si l'environnement numérique est adéquat à l'édition des correspondances, tout en apportant des solutions, on a vu, il repose des problèmes de réorganisation du matériau et de l'apparat critique. Donc, dans les protocoles donc, de conception d'une édition numérique correspondance, donc il y a autour du et de, aussi d'édition numérique de corpus de texte. Hein, c'est aussi j'ai utilisé beaucoup le séminaire technique de l'ITEM hein, avec beaucoup de retours d'usage qui étaient vraiment intéressants. Donc c'est une sorte de synthèse que je fais de ce séminaire qui a été mené toute cette année. Donc l'état de l'art, c'est une étape décisive dans l'élaboration d'une édition numérique. Alors c'est sûr qu'il y a une étude des fonctionnalités, mais de toute façon, comme ça aussi c'est tout le temps en mouvement et des fonctionnalités, il y a la possibilité de les créer et de les élaborer en collaboration avec l'ingénieur qui travaille, qui est aussi éditeur. Hein. Mais surtout, ce qui était intéressant dans le retour qui a été fait, c'était que l'état de l'art, c'est-à-dire de se mettre dans cette recherche comparative, hein, c'est qu'en fait, il conduit et contraint les équipes scientifiques à déterminer précisément les principes qui fondent la coordination entre édition et recherche, c'est-à-dire leurs objectifs d'édition avec leurs objectifs de recherche, à expliciter très clairement leurs méthodes hein, et les pratiques scientifiques mises en œuvre hein, dans cette édition et dans cette exploitation d'un corpus. Et puis aussi l'idée que l'outil va devoir correspondre autant donc, à des principes, hein, je ne vais pas les reprendre, vous voyez bien, transcription, annotation, éditorialisation, qui des principes qui sont à la fois déterminés par les usages et puis aussi par le cadre juridique. Donc l'outil idéal hein, qui apparaît dans ces retours d'usage, il faut qu'il soit flexible et modulable, hein, libre à paramétrer, qui s'adapte à hein, et qui assure donc, le développement des axes de recherche, les reformulations des questionnements et qui permet une diversification des modalités d'exploitation et des protocoles de description. Donc ensuite, niveau temps, il est... J'ai 15 minutes. Non, mais même en 5 minutes, je vais terminer. Donc, l'histoire d'une démarche éditoriale, donc c'est une démarche que je mène depuis 2002, hein, et la volonté de l'inscrire, donc inscription et adaptation d'une démarche archivistique, éditoriale et scientifique, hein, avec l'environnement IMAN. Donc, cette idée de mettre en correspondance les modalités éditoriales distinctement définies pour la réalisation de l'édition papier avec les ressources et contraintes techniques du CMS Omeka. En fait, l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en comparant la feuille Word, le document Word avec la lettre et après, mais je pense que je vais peut-être essayer pour aller vite. Alors, c'est vraiment d'essayer de faire rentrer toute cette appareil critique, tout ce matériau hein, dans les catégories, en tout cas dans les champs qui ont déjà été déterminés par Omeka. Après, ouais, attends, c'est ça que je voulais regarder si. Oui, peut-être je vais aller directement. Alors ça, j'avais fait un peu dans le sens où un côté expérimental aussi parce que c'était une thèse. Donc j'ai mené une édition classique avec des footnotes, voilà, comme je vous ai montré. Mais il y a aussi, j'ai fait plusieurs, pardon, j'ai fait étant littéraire quand même de formation. Et j'essaie, là on essaie donc avec Richard Walter d'essayer de mettre en place ces différents exemples d'édition de texte hein, dans un environnement numérique. Donc j'ai aussi effectué donc une étude linéaire et comparative, donc seulement sur 3 lettres du corpus, que je justifie pourquoi c'est un moment où l'auteur explique très précisément son projet, et ça a été important pour moi de vraiment de donner une étude très très précise de ces textes-là. Et donc il est question aussi de l'inscrire sur la plateforme, hein, et qui permet là une étude comparative entre le discours donc, de deux mathématiciens, hein, Gaspard Monge et Condorcet. Et là, l'idée aussi est de mettre en lien avec l'édition du corpus de correspondance de Condorcet. Donc là, on est en pleine intertextualité, en intercorpus, hein, c'est-à-dire aussi avec la correspondance. Vous savez qu'il se pose toute la question de savoir si la correspondance est active ou passive, c'est-à-dire celle qui est rédigée. Et là, maintenant, la question que je travaille avec l'éditeur de Condorcet est de savoir qui les lettres, si elles appartiennent à mon corpus ou au sien, hein, c'est-à-dire que parce qu'on veut aussi mettre la correspondance active et passive. Donc, certaines lettres appartiennent finalement aux deux corpus. Et là, on voit bien la nécessité pour faire des jeux comme ça de constitution de corpus, d'avoir tous ces principes hein, d'interopérabilité voilà, qui sont importants, la question des formats aussi, pour pouvoir animer ce jeu de l'intertextualité. Ok. Ouais. Et ouais, je voudrais montrer pour 5 minutes. Alors, c'est ça que je ne vais pas avoir retrouvé, c'est mon code pour vous montrer un peu. Alors, ça. Pourtant, je l'avais écrit, parce que tu vas le chercher au dernier moment, tu ne vas pas le trouver, écris-le. Et je ne l'ai pas. C'est pas possible. Ouais, c'est dommage. Mais bon, sinon, je vais terminer comme ça. En gros, c'est ça la question. Et, bah oui, mais je ne le retrouve pas, et ce n'est pas la peine de perdre du temps, je pense, avec ça. Hein ? Non, je ne l'ai pas. Je suis pas, parce que d'habitude, il est tout de suite sur mon navigateur, en fait, de mon ordinateur. Bon, bah, écoutez, ce n'est pas bien grave. C'est l'idée vraiment qu'il faut cette question, même en reprenant. Alors, je ne peux pas vous montrer les différences. C'est donc, pour l'instant, hein, au début, donc, quand je suis avec la plateforme et je suis arrivée avec Richard Walter en disant, mais moi, de toute façon, tout est prêt. Tout est bien rangé, elle est magnifique, mon édition. Tac, 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 il n'y a plus qu'à ranger dedans, ça va être très bien. Et finalement, je me rends compte que pas du tout. Et je suis en train d'essayer de reprendre. Alors d'abord, j'avais l'idée de comment, vous voyez la question, c'est-à-dire mon corpus est prêt, chaque lettre est annotée. J'avais déjà dans l'idée que je voulais transformer mon édition, de mettre cette édition, de la préparer pour que ça aille dans un environnement numérique. Et donc, j'avais fait très distinctement, donc je ne peux pas vous montrer, mes principes d'édition où j'avais bien déterminé chaque type de note, que ce soit pour l'identification des personnages, l'identification des événements, pour des notes beaucoup plus explicatives. Voilà. Et finalement, on se rend compte qu'on répond à toutes les questions. Et puis après, il y a la nécessité, c'est-à-dire même de technique éditoriale, même dans la technique traditionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire des footnotes à chaque mot. Hein, donc on est obligé aussi de ramasser des éléments du matériau de la paracritique pour le rédiger, de trouver même un ton. Là, il y a toute une réflexion aussi qui peut intéresser sur les littéraires, et parce qu'il y a, on doit changer aussi un peu de ton du discours éditorial. C'est-à-dire que le ton du discours éditorial dans une note de battage comme ça est vraiment différent du ton éditorial qu'on doit déterminer sur une plateforme. Hein. Et on se rend compte... Alors donc là, je suis... Alors pour, là, par exemple, sur cette lettre-là, donc ça, j'ai le format édition papier qui pourrait être tout à fait recevable. Maintenant, j'ai un document Word où je fais encore un côté analytique, c'est-à-dire vraiment déterminer les différents types d'informations et de matériaux que j'ai mis dans mon appareil critique pour ensuite le réorganiser la plateforme. Donc là, on se rend compte, alors vraiment, là, on voit pas, je sais pas si on peut pas faire deux zooms, c'est pas grave, mais par exemple, alors là, sur la transcription de la lettre, hein, vous voyez donc la correspondance, donc du coup, au début, il y avait la possibilité de mettre la transcription de la lettre, et là, c'était très facile parce que même les appels de notes étaient conservés, et donc je pouvais même quasiment tout mettre comme ça en vrac dans la transcription et conserver ma structure de notes de bas de page. Mais c'est là, du coup, visibilité, c'est nul, quoi. Voilà, c'est horrible. C'est Et même moi, je me dis, non, mais j'arrive. Alors, la question de la transcription. Et comme l'idée est aussi qu'on puisse mettre face à la transcription, la copie numérisée, en tout cas la forme numérisée de l'archive, on se dit finalement peut-être qu'on peut jouer un peu plus, mais déjà j'ai eu des éditeurs de correspondance qui étaient là, non, parce que dans ce jeu aussi de distribution de notes, alors je peux pas vous montrer, donc dans cette visibilité de page, par exemple, vous voyez, on voit encore un peu quand même les mots-clés, là. Donc finalement, toutes les... Et après, il y a information générale, et là on voit pas, mais il y a par exemple toute la question sur la génétique. Donc finalement, je me suis dit, ben, la génétique dans une édition de correspondance, c'est toutes les conditions d'écriture, de rédaction de lettres. Donc ça, c'est des informations que je mettais, par exemple, dans une footnote en vrac, et on se rend compte d'ailleurs la différence de précision, alors que j'ai l'impression d'être hyper précise dans mes footnotes, et que finalement, voilà. Donc ça, c'est des informations qui vont être là. C'est-à-dire que pour alléger un maximum et rester uniquement avec la transcription de la lettre. Et après, utiliser finalement dans les mots-clés, il y a deux types, on est en train de mettre en place ça, il y aurait deux types de mots-clés. C'est-à-dire qu'il y a les mots-clés très génériques qu'on puisse faire géométrie et avoir aussi bien la géométrie descriptive que la géométrie en général. Mais aussi après des mots-clés hein, sur, qui prennent vraiment, et là on dessine les chemins thématiques avec école normale, école polytechnique, mais aussi rapport entre géométrie descriptive et géométrie analytique, parce qu'il y a toutes ces notes que j'avais déjà élaboré, mais qui sont dans une édition papier assez, assez laide, hein, mais dans le sens où voir les lettres sur la question de la réception de la géométrie descriptive, voir les lettres 2, 3, 15, 18, 19, 20, voilà. Donc il y a toute cette possibilité, mais j'avais déjà constitué ces réseaux-là, hein, de pouvoir le mettre en place. Voilà. Et donc, alors là, je fais des tentatives, mais ça ne marche pas, parce que la différence aussi, quand on annote un texte, c'est à savoir si on annote toute une phrase, aussi des bouts pour expliquer. Par exemple, je n'oublierai jamais, citoyen, hein, ni le zèle que les élèves de l'école normale ont apporté à nos conférences de la maison Sorbonne. Alors moi, je suis obligée d'expliquer la maison Sorbonne, pourquoi elle est courte, mais finalement, ce n'est pas l'annotation qui m'intéresse le plus. Là, c'est mon boulot d'éditeur où je suis obligée de le faire, hein, ce qui m'intéresse beaucoup plus. C'est le public de la géométrie descriptive et les rapports entre les cours de géométrie descriptive et d'analyse appliquée à la géométrie. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est à peu près, vous présentez toutes les questions qui peuvent se poser. Là aussi, je me disais, bon, bah, j'ai fait des notices électroniques en 2002, c'est simple, on va pouvoir tout réutiliser, sortez, voilà. Et bien sûr que non, ça ne se passe pas du tout comme ça, voilà. Et finalement, il y a un travail de... C'est juste qu'elles ont été rassemblées à un moment donné. On essaie de voir ça avec le pôle aussi hein, informatique de l'école polytechnique, mais ça paraît très compliqué. Et finalement, je crois que le plus simple, ça va être moi que je récupère les éléments que j'ai fait ça et que je les réinsère hein, une autre fois dans la correspondance. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est... M'arrêter là, pardon, il y a 7 minutes de discussion, mais je pense que je vous ai montré mon projet. Voilà, merci. Merci. Mais avec plaisir. Ah, juste une dernière image parce que j'aime bien ça quand même. Et c'est celui-là. Voilà. Non, parce que l'idée aussi d'une édition numérique, hein, c'est dire, c'était mon premier contact avec le fond. C'est aussi que j'aime bien montrer sur comment finalement éditer dans un environnement numérique avec les questions, les préoccupations à la fois patrimoniales et scientifiques, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a le corpus de correspondance, et vous voyez là entre intertextualité qui n'est pas, mais en tout cas interdocument, c'est-à-dire que dans un fond, il faut essayer de développer les rapports à la fois avec une correspondance non scientifique, hein, des archives scientifiques et non scientifiques, publiques et privées, hein, et donc c'est aussi tout cet enjeu-là. Et ça, pardon, c'est mais qui est intéressant quand on parle de la question de la classification et du classement, c'est ce que j'ai d'arborescence, voilà, dans
la forêt des connaissances. C'est aussi de la forme des documents.
Exactement, oui, la diversité de la forme. Et de toute la question de la documentation et comment les mettre en réseau. Voilà. Mmh. Voilà.
Merci. On va prendre le temps de questions. S'il y a des questions sur une intervention ou l'autre, on peut répondre.
L'horloge biologique.
Tout était clair.
L'horloge biologique.
En général, bon, je vous remercie toutes les deux pour cette intervention qui était passionnante. On en discutait tout à l'heure, c'est plutôt un regard sur nos projets et l'IPN qui est métacritique. Enfin, c'est très très intéressant et à la fois sur les questions d'innovation, enfin, moi j'avais jamais pensé en fait à considérer mon projet par exemple comme un projet d'innovation.
Surtout le tien en plus, surtout le tien, c'est ça qui est. Et surtout toi. Ouais.
C'est drôle parce que enfin, voilà, on n'a pas du tout de recul et en fait on se rend compte que ce qu'on fait s'inscrit dans une réflexion et que ben, on a tout intérêt à bénéficier de vos retours, quoi, de votre réflexion. Et juste sur un petit remarque de détail sur ce qu'a dit Marie, il y a un mot qui m'a interpellée évidemment, c'était la notion de fidélité qui est une notion qui se pose beaucoup en traduction. Et en traduction, cette notion a été un peu. Tu en brèche sur la fidélité, oui. Bon, c'est quoi la fidélité à quoi et tout ce que ça présuppose, donc l'idée qu'il y a un texte unique derrière, qu'il y a une interprétation idéale, et l'édition de correspondance, c'est un peu pareil, j'ai l'impression.
Oui, que sur des principes de traduction, et d'ailleurs, n'importe quelle bonne traduction commence par des principes de traduction, justement, oui. D'établir cette.
Mais aussi toute cette difficulté d'établir des principes généraux qui n'écrasent pas les particularités, les singularités de chaque texte. Oui. Donc, c'est très intéressant aussi ce que tu disais sur les éditions ad hoc.
De l'outil réalisé pour correspondre à cette spécificité.
Oui, parce qu'en même temps, une édition numérique ou pas numérique, c'est comme une traduction, c'est toujours une interprétation. En fait. C'est toujours une interprétation d'un texte quand même.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même sur ces et vraiment qui est là et qui était quand même au début quand on a commencé à travailler au sein du groupe de travail correspondance. Donc il y avait vraiment cette idée de chacun nous, on sait d'abord nous, on sait mieux aussi que certains éditeurs éditer notre corpus parce qu'on le connaît, on connaît comme quoi il est si différent des autres. Mais il y a un moment donné où on peut répondre aussi à l'autre éditeur, de dire on parle quand même pour deux mathématiciens du même âge, de la même période, avec des. Voilà. Donc je pense qu'il y a cette tension-là, c'est-à-dire bien sûr d'exploiter ces spécificités, parce que c'est en essayant d'avoir une démarche qui mette en valeur et qui respecte ces spécificités, c'est là où aussi on fait preuve d'invention, d'ingéniosité, où on crée des choses. Mais ça n'empêche pas, parce qu'on l'a créé pour répondre à une spécificité, que ça puisse être applicable à d'autres corpus. Et plus on avance dans le groupe de travail correspondance, ce qui devient assez satisfaisant quand on sait que finalement les gens disent « Ah mais oui, on arrive à établir des principes communs voilà. ». Donc, et vraiment, il y a des choses qui se passent. Et aussi, les mêmes récalcitrants disaient « Finalement, c'est vachement pratique aussi ». D'essayer d'établir, parce que même dans une sorte de légitimité et d'avoir des choses sur lesquelles, bien sûr, tu vois, sur le principe, moi, quand j'ai la formation à l'édition érudite, on est vraiment ça, sur fidélité, lisibilité, mais t'arrives, et avec le nouveau sur la question aussi, ce qui serait intéressant sur la traduction, c'est que, justement, dans un environnement numérique, eh bien, c'est comme si on avait le droit d'effectuer plusieurs choix. Alors que dans une et de les confronter. Alors que dans une édition papier, c'est cette idée vraiment et que je trouve vraiment intéressante de Vitali Rossati, hein, sur cette idée de d'ouverture et de possibilité finalement et de mise en réseau aussi, de confrontation avec différentes formes, stades et que tu puisses.
C'est aussi le risque de la prolifération et le fantasme de la prolifération.
Mais oui, mais en même temps, oui, mais bien sûr. Mais en même temps.
Le texte unique d'un côté et le fantasme d'exhaustivité de l'autre.
Oui, mais c'est pour ça que ça doit être mené à un engagement scientifique, à une méthodologie scientifique qui doit justement pouvoir maintenir, coordonner ou du coup le guider et pas être dans seulement une multiplicité qui ne veuille rien dire. Mais comme le problème des données, c'est-à-dire que c'est pas tout dans l'étude des corpus textuels informatisés, c'est-à-dire que c'est pas tout de produire des données, c'est de savoir finalement comment on va les organiser, comment on va les, pas seulement les visualiser pour voir les données, mais comment une visualisation va pouvoir être exploitable pour pouvoir en avoir une interprétation. Voilà.
Et notamment, vous avez parlé de projets qui avaient des outils d'annotation, de transcription, de crowdsourcing. Donc, bah, ça m'intéresserait vraiment de le voir, parce que bah, pour confronter avec le projet sur lequel je travaille, donc moi qui ai un projet de dernier numérisé, et du coup, ça rejoint bah, votre intervention. Et c'est vrai que vous me renvoyez, nous, c'est clair qu'on a voulu faire un site adapté au corpus bien particulier. Bon. Et évidemment, on le voit dans d'autres pays, rien que pour les plateformes de transcription, oui, il y a déjà des plateformes qui prennent en charge ce type de documents et bien d'autres. Donc, je crois que c'est plus... là, c'est la structuration des projets, quoi, où chaque institution paye sa plateforme, etc. Bah. Et alors qu'en fait, clairement, l'objet de recherche, comment faire le lien entre un site permettant de gérer une archive Airbus dans Air France, Herbier et correspondance, évidemment, ça pourrait
Mais je pense que il y a la question aussi, c'est quand les et ce qui est intéressant aussi avec dans l'environnement numérique, c'est la manière dont, par exemple, là avec l'École Polytechnique, c'est la manière dont le chercheur finalement développe une autonomie, justement avec ses outils en libre accès, développe une autonomie par rapport à l'institution. Par exemple, moi, mon projet d'édition de la correspondance de Monge, j'ai passé une slide, mais c'est un projet qui existe en histoire des sciences depuis 1947. Voilà. Après, donc, non, mais tout ça pour dire avec différents problèmes techniques, c'est-à-dire que même en 2000, l'École Polytechnique, qui est quand même une institution qui est assez autonome et facile pour avoir des moyens techniques ou que ça, c'était encore un problème parce qu'il fallait l'ingénieur informaticien. Enfin, et chaque fois, on arrivait avec mon corpus, c'est numérisé, c'est fait. Et j'ai fait des réunions avec l'École Polytechnique, mais on n'arrivait jamais à trouver de solution. Et finalement, c'est en passant par le biais de l'UDPN où j'ai remis mon projet Monge et par l'ITEM. Et là, d'un coup, je suis allée voir l'École Polytechnique en lui disant ben, c'est bon, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez travailler avec l'ITEM, l'UDPN ? Alors, oui. Et ce qui est bien, c'est que j'ai récupéré ma liberté, mon autonomie, parce qu'à la base, le service patrimoine me disait, mais donnez-nous une copie PDF de votre thèse, et choup, on va. Et je dis, il est hors de question que vous mettiez tout mon travail d'édition comme ça en PDF. Donc là, je crois qu'il y a un vrai travail aussi, et dans cette phase de l'état de l'art. Ouais, voilà. Et l'état de l'art, c'est-à-dire de voir ce que les autres ont fabriqué, qu'on n'est jamais si différent, le principe qui est mis en œuvre au sein de l'UDPN de mutualisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul projet UDPN qui, un seul projet, regroupe tout, traduction, annotation. C'est justement, on a vu, il y en a un qui développe un module de TUI, l'autre qui s'intéresse beaucoup à la transcription, l'autre à la notation. Camille avec la traduction. Et en fait, nous, on s'est dit, ah, bah, du coup, on a, au sein de l'UDPN, finalement, il y a tous ces outils-là, pas au sein d'une seule plateforme. Et là, voilà ce qu'a montré, vous avez là.
Tu as la page, en fait, qui correspond à la rubrique projet, en fait, sur le site, où tu vas avoir la liste de tous les projets. Sont tous listés et tu auras une description en fait dans chaque donc par exemple le projet de Camille, tu vas avoir une description détaillée de tout ce qui a été réalisé,
ta réalisation, la méthodologie
concernant sa plateforme de traduction.
D'accord. Merci.
Voilà. C'est une question facile.
J'ai envie de croiser vos deux interventions justement pour vérifier s'il y a interdisciplinarité en appliquant au projet de Marie les principes mis en avant par Céline. Quand on comprend ce que veut faire la France avec ses archives et en les numérisant, quel est le but d'une numérisation de la correspondance de monde? Est-ce que par exemple c'est Polytechnique qui veut améliorer son image peut-être rappelant
Disons que c'est toutes les discussions qu'on a tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'au début le numérique c'était dans il y a les objectifs patrimoniaux, donc il y avait cette idée seulement parce qu'ils ont acheté très très cher un fonds d'archives personnelles. Et c'est comme ça que j'ai été payée d'ailleurs pour faire des notices. Donc il y a cette idée-là, mais il n'y avait pas une idée d'exploitation scientifique. Mais du coup, l'environnement numérique nous a permis, c'est ce que je redisais, d'autonomie, c'est-à-dire que la communauté, le groupe de chercheurs intéressés autour de Monge, hein, nous permet de pouvoir le faire.
Pourquoi Monge ? Pourquoi la correspondance ? Quel est le retour sur investissement
Retour sur investissement, là du coup oui, parce qu'il y a tout un patrimoine, c'est le fondateur de l'école polytechnique, donc déjà c'est pour ça que le fonds a été acheté, et il y a tout un discours qui est réutilisé, notamment aujourd'hui à l'école polytechnique, pour légitimer un statut à part de la grande école ou quoi que ce soit. Donc ça c'était oui, et le service patrimoine, ce que disait Céline pour l'équipe Air France, le service patrimoine de l'école polytechnique est très très important, et pour cette idée justement de diffusion et auprès de l'étranger pour récupérer des étudiants qui eux paient, les étudiants étrangers, hein, voilà. Et pour récupérer ça. Il y a une valorisation. Mais on se rend compte que finalement, les enjeux de valorisation n'étaient pas si importants, puisqu'on n'a jamais réussi à réaliser. Et finalement, c'est plus dans un contexte et dans un objectif. Le vrai financement, je pourrais dire, de mon édition, ça a été le financement de mon doctorat. Et ça a été le premier financement important pour l'édition de la correspondance.
Quoi. En croisant c'est ce que disait Camille tout à l'heure pour ce projet, c'est-à-dire ça permet vraiment d'avoir un regard, parce qu'une des caractéristiques de la numérisation, c'est que ça introduit une notion de coût dans les humanités qui souvent ne prenaient pas en compte. Donc s'il y a un coût, il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement.
C'est aussi la question des usages, je pense, qui est cruciale à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand on crée, on voit par exemple sur les appels à projets de recherche, même européens, il y a toujours cette dimension maintenant de retour de la recherche dans la sphère sociale, on va dire, pour être un peu rapide. Et donc l'idée justement de développer au sein du DPN à la fois une approche sur les usages scientifiques, mais aussi les usages pédagogiques, par exemple. Parce que ce qui peut être intéressant, on l'a vu par exemple sur la plateforme Archives, Zola, c'est d'envisager aussi dans la création de certaines plateformes des parcours pédagogiques par exemple qui pourraient être associés, ou éventuellement même une exploitation par médiatique ou culturelle d'un autre ordre. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça demande aussi aux scientifiques un petit peu de se décentrer, de prendre aussi le recul de l'exploitation qui peut être faite de sa recherche, qui n'est pas que la mise à disposition d'un corpus qui devient numérisé, mais aussi de tirer des conséquences sur les usages, voire communicationnels et culturels, qui peuvent être faits de ce type de plateforme. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que c'est une plateforme numérique qui n'est pas qu'une plateforme à destination des scientifiques. On peut aussi envisager des scénarios d'usage qui intègrent des types d'utilisation plus profanes, je veux dire,
ou plus pédagogiques, par exemple.
Ou internationales, ou...
Ça a vocation, par exemple, l'édition de la correspondance de Monge a aussi à vocation, et c'est le travail en partenariat avec le Lynx, de faire travailler les élèves polytechniciens justement à cette exploitation, à cet archivage, dans l'idée de l'extension du corpus à la correspondance générale, donc avec le professeur d'histoire des sciences et d'épistémologie, qui en fait de faire des TD. À partir et qui utiliserait la plateforme IMAN justement avec des travaux des étudiants et aussi, alors là, mais ça c'est un peu flou encore comme projet, mais l'idée de MOOC aussi, à partir de, voilà. Mais en tout cas, de toute façon, il y a un moment où il faut vraiment les préoccupations patrimoniales et scientifiques comme première step, comme première phase, en tout cas de préparation du matériel. Voilà.
Ça aussi, c'est quelque chose qu'on constate dans tous les projets, c'est-à-dire du moment qu'on numérise,
non ?
C'est assez difficile en fait d'avoir
après, une tout,
mais en même temps il faut les envisager pour pouvoir
que ça c'est aussi vu dans tous les justement dans, en, par exemple dans Fichical fonctionnement et cadre d'usage, c'est là aussi où on a tous les scénarios d'usage qui n'ont pas été envisagés par les concepteurs et qui sont liés aux pratiques des usagers et donc de réappropriation aussi des personnes à qui on propose les contenus. Donc ça, c'est vrai que c'est ça laisse ouvert la question des usages.
Mais les usages sont, enfin pour terminer là-dessus, hein, mais c'est vrai que se rendre compte qu'ils sont absolument déterminants, et ça se voyait d'ailleurs dans les retours d'état de l'art, hein, que la question des usages était vraiment importante pour déterminer et concevoir un outil, quoi. Et qui puisse être, qui puisse évoluer. Et finalement, de prendre des grands usages comme scientifiques, pédagogiques, culturels, ça permet d'avoir une gamme assez large pour pouvoir développer ensuite. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents jusqu'au bout. Merci Anne.